L'actualité, c'est aussi et toujours la guerre en Syrie. Eh ben oui, pardon de revenir à la réalité.
Vous êtes tranquille pour un bout de temps.
Pardon, mais qu'est-ce que... Tombez l'ambiance.
Non, mais, absolument. Pour 10 ans.
Je vous rappelle que Daesh, après avoir perdu Raqqa, vient de récupérer quand même la ville de Boukamal, qui est à la frontière irakienne. Donc, on n'est pas vraiment sorti. Alors, il se trouve que moi, je m'intéresse à la littérature, Charlotte de Turckheim, vous le savez peut-être. Et je me suis aperçue que ce genre d'événement, on le trouve assez peu en littérature. C'est pas que la littérature française n'aime pas la guerre. Ça, en général, elle n'a aucun tabou côté sujet, la littérature. C'est plutôt qu'elle n'est pas très à l'aise avec, disons, le temps, ou en tout cas la temporalité. La littérature française, contrairement à la littérature anglo-saxonne, ne se nourrit pas ou ne traite pas beaucoup de l'actualité contemporaine. Elle préfère avoir du recul. C'est pour ça aussi qu'elle adore puiser dans l'histoire. Regardez le palmarès des prix littéraires récemment, que ce soit le Goncourt, le Renaudot ou le Femina. Vous avez l'ordre du jour des Réguillard, qui est quand même l'accession au pouvoir de Hitler. Vous avez la disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze, sur la traque du médecin nazi après la guerre. Et vous avez la Serpe de Philippe Jaénada, qui est un retour sur un fait divers de 1941. On l'avait d'ailleurs chroniqué ici, Charline, je sais pas si...
Mais est-ce qu'on n'a pas raison d'avoir un peu ce recul ?
Il faut de tout pour faire un monde, comme dirait ma grand-mère, mais en tout cas, ce qui est sûr...
La littérature doit beaucoup aux nazis, quand même.
Non, ce qui est sûr...
On pourrait remercier un peu, de temps en temps.
Ce qui est sûr, c'est que notre littérature française, merci de cette intervention, elle préfère visiblement...
J'en ai plein.
Quand même, oui, c'est ça qui me fait peur, le passé au présent. Alors, cela dit, je vous dis ça, mais il arrive quand même que certains livres viennent, disons, perturber le grand amour entre la littérature et l'histoire. Certains livres qui viennent prendre le pouls de notre époque et qu'on peut lire d'ailleurs quasiment comme un documentaire. Alors, le plus célèbre de ces dissidents, c'est Michel Houellebecq, par exemple, qui fait exactement ça. Mais il y en a d'autres. Et il y a par exemple Mécanique du chaos de Daniel Rondeau, qui a d'ailleurs remporté le Grand Prix de l'Académie française. Ce que j'ai trouvé assez plaisant, c'est qu'en plus, de la part de l'Académie française, on pouvait s'attendre à justement un couronnement de quelque chose en lien un peu avec le passé. Eh bien non, ça n'est pas ce qu'ils ont fait, comme quoi ce sont des facétieux. Alors disons...
Oh là là, ils sont facétieux.
Absolument. Vous avez dit plaisantin tout à l'heure, oui, je me suis permis de dire facétieux. Alors, c'est un roman qui est bâti comme une série. On le lit comme un mélange de Engrenage et du Bureau des légendes. Je ne sais pas si vous connaissez ces séries, Charlotte de Turckheim, mais il raconte la germination du terrorisme et la lutte des services secrets contre cette germination. Et surtout, il montre tout l'arrière-plan de la guerre, que ce soit l'épopée tragique des civils, ou alors cette délinquance un peu dégueulasse qui grenouille et qui profite du chaos. Et pour raconter ça, ce roman procède par flash. C'est-à-dire que vous avez 450 pages, quasiment stromboscopiques. Ce sont des mini-scènes qui ont lieu à Paris, en banlieue, en Afrique du Nord ou en Orient. Et on navigue entre les services de police, entre les ambassades, entre les caves, ou alors entre les plages maltaises sur lesquelles s'échouent des réfugiés. Entre parenthèses, Daniel Rondeau, il se trouve, a été ambassadeur de France sur l'île de Malte. Et ça a été un des premiers à tirer l'alarme parce qu'il a vu, parmi les premiers, s'échouer les embarcations avec cet afflux de réfugiés sur les plages maltaises. Donc il connaît un peu le sujet. Alors au départ, le lecteur, il est un petit peu perturbé par cette intrigue en fragmentation, en fait. Et en fait, très vite, ces mini-scènes, ces scénettes se composent et s'assemblent de façon à tracer un puzzle, finalement, et à tracer un visage. Et ce visage, c'est celui de notre pays au moment où je vous parle. C'est-à-dire qu'on a... comment les services secrets travaillent pour traquer le fanatisme? Comment les fanatiques travaillent, eux, pour ne pas être débusqués, justement, par les services secrets? Comment les équilibres géopolitiques tentent de se préserver? Et en fait, il n'y a pas de point de vue. C'est-à-dire que ce système de scénette vous permet de pivoter d'une action, de part et d'autre de l'action.
C'est factuel, vous voulez dire?
C'est factuel, il y a du sentiment aussi, bien sûr. Mais vous êtes, vous, lecteur, dans tous les points de vue. C'est-à-dire que vous êtes dans la tête d'un marchand, d'un trafiquant d'art, qui va exploiter les œuvres d'art volées par Daesh, vous êtes avec lui en train d'attendre dans sa chambre d'hôtel libyen le coup de téléphone de son contact. Vous êtes dans la peau grelottante d'une réfugiée qui se terre dans une grotte maltaise en disant qu'elle va mourir. Vous êtes dans la tête d'un truand turc qui regarde sans arrêt le ciel parce qu'il redoute les drones. Et il a raison. Vous êtes dans l'appartement d'un caïd de banlieue qui est en train d'activer son réseau de poseurs de bombes. Et vous êtes dans la solitude anxieuse d'un super flic qui est en train de tout comprendre. C'est-à-dire que vous avez un instantané des coulisses de notre XXe siècle, et c'est bien la preuve que la littérature française, quand elle le veut, peut raconter notre condition ici et maintenant. Je vous redonne les références. Mécanique du chaos de Daniel Rondeau est paru chez Grasset.